Vous écoutez RTL.
Pour faire de bons gâteaux, il faut beaucoup d'ingrédients.
Pour moi, la Coupe du Monde de la pâtisserie, c'est quand même vraiment un des plus beaux concours du monde.
La curiosité est un vilain défaut.
Et je touille, je touille, je touille. Je remue, je remue, je remue.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
L'occasion pour les curieux que nous sommes de vous raconter l'histoire de quelques desserts mythiques. Et pour cela, nous avons convié l'une de nos sociétaires, Marie-Hélène Bellac. Vous êtes historienne passionnée de cuisine notamment. Les Français sont très forts en dessert. Comment ça s'explique ?
Oui, je pense que ça fait partie plus généralement de l'excellence de la gastronomie française. Et puis on a quand même des lignées de pâtissiers. Le premier, c'est sans doute Pierre-François de La Varenne, au milieu du XVIIe siècle, qui a écrit un livre, Le pâtissier français, dans lequel il codifie toutes les bases. Puis ensuite, au XIXe siècle, on a eu le grand Carême, qui construisait des pièces montées absolument extraordinaires.
Marie-Antoine Carême, c'est
oui,
ça ?
Oui, absolument, ouais. Et qui était le pâtissier de l'empereur. C'était un passionné d'architecture. Donc, il a consulté tous les ouvrages anciens et il a créé des pièces montées. En fait, c'est... Même si la pièce montée existait avant, il est quand même le créateur de ces très belles pièces montées dont une partie n'était pas comestible et qui représentait des pavillons corinthiens, grecs, etc. Enfin.
Le dessert, la touche sucrée comme ça en fin de repas, on fait ça depuis longtemps dans notre pays ?
Oui, depuis longtemps, même avant, je veux dire, dans l'Antiquité, on avait coutume à la fin du repas de mettre sur la table des fruits secs ou des confits, des confitures. On faisait confitures sèches et puis les fruits confits et les confitures telles que nous les appelons aujourd'hui.
C'est quoi une confiture sèche ?
Alors, c'est le fruit confit, ce que nous on appelle aujourd'hui le fruit confit. Mais on a longtemps utilisé le mot confiture pour désigner à la fois ce que nous appelons confiture et les fruits confits. Et puis aussi des crèmes. Donc, c'était le moment de la desserte. Ensuite, en France, au Moyen-Âge, on parle de la desserte, c'est-à-dire qu'on enlève tout ce qui reste sur la table et on met à la place tous ces mets qui, au départ, d'ailleurs, n'étaient pas toujours sucrés. Pouvait être à la fois sucré et salé.
D'où l'origine du mot.
Le mot dessert, absolument, et... desservir, dessert et on apporte ses douceurs.
Alors Marie-Hélène Bellac, vous publiez un repas gourmand à la française, audition Omnibus. Ce mot dessert, il rentre quand dans notre dictionnaire ?
Alors le mot dessert lui-même seulement au XVIIe siècle, donc après la pratique.
Et il se popularise, il se démocratise, c'est... parce que ce que vous décrivez, c'est...
Oui.
Sur les tables riches, des nobles, des aristocrates.
Oui, ça a été longtemps les tables quand même des riches, serait-ce que parce que le sucre qui était d'abord le miel, puis le sucre de canne était une denrée relativement chère. D'abord, ça a été sur les grandes tables. Dans les maisons des paysans, il n'était pas question de mettre de dessert à la fin. C'est ensuite au 18e, 19e siècle, surtout que le dessert se démocratise.
Alors, on parle de dessert, mais évidemment, il y a plusieurs desserts, et notamment, au début, deux types de préparations. Lesquels ?
Oui, alors... L'entremets et la pâtisserie.
Alors, on commence par l'entremets.
Alors, l'entremets, comme son nom l'indique, c'est entre les mets. C'était des préparations relativement légères, souvent à base d'œufs, de lait, voire de fruits, que l'on servait entre deux mets, par exemple, après le rôti. Donc, vous voyez, absolument pas en fin de repas.
Donc, et du sucré avait,
voilà,
entre
du
deux
sucré,
plats salés.
Du salé, ouais. Voire même du sucré salé, parce que l'entremets n'était pas forcément sucré.
D'accord.
Et c'était pour faire patienter, en quelque sorte, les convives avant un plat plus solide. Et souvent, l'entremets s'accompagnait, dans les beaux repas, de réjouissances, d'amusement, de musique.
On est au Moyen-Âge, quand on mange de l'entremets ?
Oui. Ah oui, alors là, on peut présenter des pièces superbes, avec des individus qui jouent de la musique, qui sortent de ces espèces de pièces montées en carton, enfin des choses absolument étonnantes.
On devrait se faire ça à la cantine d'RTL le soir.
Je pourrais faire une apparition dans une pièce montée en
chérubin.
Carton. Ça m'irait bien, tiens, bien rebondi. Vous voyez ce que je veux dire ?
Je vois très bien. Il disparaît quand cet entremets dans l'histoire du dessert ?
Alors cet entremets, il va durer très longtemps et en fait, il existe, mais il devient vraiment un dessert seulement, disons, au 19e siècle. Et puis, il devient totalement sucré. Au début du 20e seulement.
Si Denis, méfiez-vous, si vous moquez de moi, je vous appelle Madame Mère. Ça vous prend cette histoire-là. L'autre dessert star, c'est la pâtisserie. Alors, d'abord le mot, tiens, on aime bien la sémantique ici, l'origine des mots, quand ?
C'est la pâte, hein, c'est pareil. Alors, c'est 1328, si je ne me trompe. Et au début, les pâtés peuvent être aussi bien sucrés que salés. Mais alors, pour faire un pâté, il faut un four. Donc, seuls des pâtissiers professionnels ou des gens employés dans de grandes maisons peuvent faire de la pâtisserie. Donc c'est quand même l'apanage déjà de gens d'un certain niveau social, ou alors on va chez le pâtissier. Et d'ailleurs, dans les grandes maisons, jusqu'à la Révolution française, le pâtissier était supérieur dans la hiérarchie au cuisinier.
Et ça devient exclusivement sucré,
alors là, lentement mais pareil, sûrement, ou c'est, oui, c'est surtout au 19e que ça devient vraiment sucré. Et que d'ailleurs apparaissent les grandes pâtisseries à Paris, notamment sous le Second Empire. C'est le règne de la grande pâtisserie, des pâtissiers qui font des gâteaux prestigieux, et particulièrement le gâteau qu'on va chercher le dimanche après la messe.
La curiosité week-end, c'est jusqu'à 15h sur RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
On vous raconte l'histoire de la pâtisserie avec notre invitée Marie-Hélène Bellac, qui est historienne de la cuisine, mais pas que, puisque vous allez sortir un livre sur Hortense de Beauharnais dans quelques jours, c'est
sorti,
ça. Ah, vous l'avez
sorti,
déjà sorti.
Sorti.
Bon.
Il a même été primé.
Oui, il a été primé. Il a eu le prix spécial de la Fondation Napoléon.
Vous reviendrez nous en parler au micro de la curiosité.
Avec plaisir.
Bon, remettez votre tablier.
Allez, hop,
l'invitation est lancée. Alors, on va parler de la galette des rois,
absolument,
évidemment.
Absolument, il y en a déjà sur tous les étals. Alors, depuis le Moyen-Âge, en fait, c'est une galette qu'on mange pour l'épiphanie, c'est-à-dire que le moment où les rois mages arrivent guidés par l'étoile, ils viennent d'Orient et ils reconnaissent la nature divine de l'enfant Jésus. Et donc on mange cette galette qui au départ d'ailleurs était un gâteau rond, qui n'était pas vraiment une galette, que l'on appelait un goranflot. Et c'est à peu près sans doute au même moment qu'on voit la fève, mais la fève est d'une tradition beaucoup plus ancienne.
Et alors, ce gâteau rond, le goranflot, qui est donc l'ancêtre de la galette des rois qu'on connaît aujourd'hui, a créé une bataille épique entre les boulangers et les pâtissiers parisiens notamment. Pourquoi ?
Oui, parce que les pâtissiers parisiens étaient formés en corporation, donc personne n'avait le droit de faire des gâteaux. Et les boulangers ont trouvé la parade en décidant justement qu'ils ne feraient pas un gâteau, mais une galette. Et du coup, ils avaient le droit. Et d'ailleurs, il était de tradition que les boulangers offrent à leurs meilleurs clients une galette au moment d'Épiphanie.
Alors aujourd'hui, elle est quoi ? Elle est feuilletée,
elle est
à l'amande.
D'amande.
Oui. Ça, c'était
alors,
c'est nouveau,
feuilletée...
ça c'est récent.
Oui, c'est plus, enfin, c'est moins ancien, puisque le feuilletage est codifié justement par François-Pierre de la Varenne au milieu du XVIIe siècle. Donc c'est à ce moment-là que vraiment on maîtrise le feuilletage. Et c'est à peu près à la même époque qu'apparaît la crème d'amande, dont on fourre la galette, mais pas toujours, hein, pas systématiquement.
Donc c'est, vous avez dit milieu du XVIIe.
Oui.
Donc finalement cette recette, elle a traversé les siècles, parce que c'est à peu près c'est la galette la plus habituelle que vous venez de décrire.
Complètement. Même si dans le midi de la France, dans beaucoup de régions, on ne mange pas une galette.
Hein.
C'est
la grosse brioche.
Une brioche des rois qui a une forme de couronne.
Avec des fruits confits.
Voilà, des fruits confits et des gros grains de sucre.
C'est trop bon.
C'est tellement bon. Marie-Hélène Bellac, vous publiez Un repas gourmand à la française aux éditions Omnibus. Et vous y racontez donc cette histoire de la galette et de la fève aussi. Elle existe depuis très longtemps, cette fève, depuis l'Antiquité.
Oui, parce que la fève, en fait, on en trouve trace beaucoup plus ancienne. Puisque par exemple à Rome, au moment des Saturnales, les fêtes en l'honneur de Saturne, on tirait au sort ce que l'on appelait le roi du jour. Et si ce roi dans une maison était l'esclave, et ben ce jour-là, le maître devait obéir à l'esclave. Donc c'est une pratique très ancienne. D'ailleurs, l'Église, à un moment, a lutté contre la pratique de la fève, mais elle n'a pas pu l'empêcher.
C'était quoi les Saturnales ? C'était
des fêtes en l'honneur de Saturne,
récurrentes,
Saturne.
Donc à une période donnée de l'année.
Absolument, tous les ans.
Bon, c'est un début d'année gourmand, n'en déplaise à Thomas, puisque après la galette des rois, on va se régaler de crêpes.
Ça dépend combien de kilos on a pris. Vous êtes fine comme un cure-dent, donc c'est facile de faire la leçon aux autres. Moi, j'ai pris des kilos, donc je suis obligée de faire attention cette semaine.
Pourtant, Thomas, qu'est-ce que je mange ? En tout cas, je vais en manger des crêpes. C'est quoi la chandeleur ?
Alors, c'est aussi une fête religieuse, puisque c'était la fête des chandelles, le moment où l'on portait à l'église des cierges, pour fêter les relevailles de la Vierge qui venait présenter son enfant au temple. Donc à ce moment-là, on mangeait des crêpes, même si ce n'est pas le seul moment de l'année où on mange des crêpes.
Et qu'est-ce qu'on faisait avec ces crêpes ? Il y avait une pratique très particulière. On faisait notamment une crêpe qu'on remisait, c'est ça ?
Oui, alors la crêpe est gage, du moins on l'espère, toujours de prospérité. Donc en principe, la première crêpe, on la repliait et on la mettait en haut d'une armoire et on la conservait toute l'année en espérant justement qu'elle apporterait la prospérité. Mais vous savez, ça relève de la même pratique qui consistait à faire sauter la crêpe en tenant une pièce d'or dans l'autre main. Toujours cette idée que ça va apporter la richesse.
Et ce mot crêpe, d'où vient-il ?
Le mot crêpe, alors il vient en fait du latin crespus, parce que quand vous faites une crêpe fine, le bord est tout dentelé. Donc ça veut dire frisé au départ. Même si toutes les crêpes ne sont pas dentelées. Il y a des crêpes de toutes sortes, hein, des crêpes fines, des crêpes épaisses, des crêpes avec de la farine de froment, de sarrasin, du lait, de l'eau, des œufs, pas d'œufs. Enfin, le monde des crêpes est absolument extraordinaire.
On D'accord. fait des crêpes depuis toujours.
Oh oui, je pense. Oui,
c'est le premier dessert,
un des
presque.
Premiers desserts. Oui,
et alors, on parlait de l'adaptation de la galette en fonction des régions. Est-ce que c'est vrai aussi des crêpes?
Alors, les crêpes, alors là, on a une diversité encore plus grande. Et chaque région a son type de crêpe et lui donne un nom particulier. En Bretagne, par exemple, on désigne les crêpes sous le nom de galette, justement.
Tout à fait. Bon.
Mais dans le Morvan, c'est les crapiots. Ou bien encore, je pense aux matefins, dans le Berry. Et puis, vous savez qu'il y a aussi les crêpes à l'étranger, le blini en Russie ou bien le pancake aux États-Unis.
Alors pour être tout à fait exact, en Bretagne, on appelle galette, qui est une crêpe au sarrasin, donc ce qu'on appelle les crêpes salées, et une crêpe, la crêpe, c'est la crêpe sucrée, la crêpe au froment, sur laquelle on met du sucre et du beurre.
Ça me donne
faim.
On
est pénible en Bretagne.
J'ai très très envie d'aller dans une crêperie là avec votre.
Je pourrais vous en faire
description. Ah, ça serait sympa.
La crêpe Suzette.
Ah alors la crêpe Suzette, ça déjà, c'est beaucoup plus aristocratique, je dirais.
Ah, c'est vrai. C'est quoi la recette déjà?
Alors la recette, d'abord c'est une crêpe fine faite avec du lait et des œufs. Et une fois qu'elle est cuite, on l'enduit d'un beurre qui est malaxé avec du jus de mandarine et du zeste de mandarine, surtout pas des oranges. Hein. Ce sont des mandarines. Et ensuite, on verse dessus dans une poêle, on la met dans une poêle pour qu'elle fonde, et on verse une liqueur à l'orange, du Curaçao ou du Grand Marnier. Et alors, on raconte que la première fois, elle a pris feu toute seule. Donc, depuis, on a pris l'habitude de la flamber.
D'accord.
Et pourquoi elle s'appelle Suzette?
Alors, elle s'appelle Suzette en l'honneur d'une jeune femme qui s'appelait Suzette. Ouais. C'était le prince de Galles, le futur roi d'Angleterre, qui avait amené cette jeune femme dîner. Il avait demandé à Escoffier, qui était un des grands chefs cuisiniers à la fin du 19e siècle, de trouver un dessert qui plairait à cette jeune femme, un dessert original.
Donc d'inventer et un
voilà,
dessert, en
d'inventer
quelque sorte.
D'inventer un dessert, et il a inventé la crêpe Suzette.
Et alors, ça s'est pas bien passé entre les deux?
Très bien, ouais. Ça s'est très bien passé.
Elle a fait son œuvre, la crêpe Suzette.
Il y a eu comme ça, comme Escoffier, il y a eu des grands maîtres, des grands cuisiniers qui ont marqué chacun des siècles, chacune des époques.
Oui, après Carême, donc vous avez surtout Escoffier qui codifie en fait et qui simplifie la cuisine de Carême et qui permet que ce soit une cuisine qu'on puisse réaliser dans les grands palaces. Escoffier, c'est la recette, les recettes des grands palaces. Et on a créé beaucoup de plats en l'honneur de personnalités. Je pense à la pêche Melba aussi, qui a été créée également par Escoffier, en
Pour
l'honneur d'une cantatrice qui s'appelait Nelly Melba.
Et il y avait aussi des chefs, des pâtissiers qui écrivaient pour le peuple un guide
alors,
de dessert, où le dessert à l'origine, c'est...
Alors,
c'est un peu collé-monté,
c'est pour
la bourgeoisie finalement.
Bah, c'est-à-dire que le dessert, au départ, c'est quelque chose de compliqué. D'ailleurs, vous savez qu'on dit qu'on peut faire une recette sans toujours suivre précisément un livre, si on fait recette à base de viande, de légumes, etc. Alors qu'en pâtisserie, il faut être très proche des données du livre. Donc c'est quand même un art difficile. Mais ce sont ces grands pâtissiers qui ont codifié. Et puis, il n'y avait pas de livre, je dirais, populaire. Les desserts populaires, c'était justement les crêpes, les galettes... un flan, par exemple. Mmh. Voilà.
Bon, on sait pourquoi les crêpes s'appellent Suzette, enfin certaines. Et les madeleines. Mais pourquoi elles s'appellent madeleines, les madeleines? Réponse tout de suite, les curieux.
La curiosité week-end, c'est jusqu'à 15h sur RTL. La curiosité week-end, c'est jusqu'à 15h sur RTL.
J'aime écouter du piano comme ça sur RTL. En me régalant de quelques pâtisseries. Alors nous, on vous raconte comment sont nés nos desserts préférés avec l'historienne Marie-Hélène Bellac. Pas besoin d'être champion du monde, heureusement, de pâtisserie pour faire des madeleines. Et c'est un amateur, une amatrice qui vous le dit. Ces petits gâteaux moelleux qui sont en forme de coquille Saint-Jacques. Pourquoi déjà ce gâteau a cette forme de coquille Saint-Jacques?
Alors là, on pense que c'est tout simplement parce que certains... endroits où on fabriquait la madeleine, je pense par exemple à Illiers près de Chartres, était sur le chemin des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Donc comme l'emblème des pèlerins était la coquille Saint-Jacques, il était logique de fabriquer un gâteau qui ait cette forme. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué que ça, hein, parce que on ne sait pas véritablement l'origine. Il y a plusieurs villes qui s'en réclament, même si la ville qui est aujourd'hui, je dirais, se dit le berceau de la madeleine est donc Commercy. Et
c'est où
dans
ça,
la Meuse,
Commercy,
dans la Meuse, oui. Et on prétend que ce sont des femmes, enfin, Tantôt, c'est la cuisinière du cardinal de Retz qui se appelait Madeleine. Ou bien une autre fois, c'est plutôt celle de Stanislas de Lesavski, le roi de Pologne, qui se sera appelée Madeleine, une autre Madeleine. Donc, on est quand même dans l'incertitude, disons.
Comment vous faites pour essayer de trouver ces sources? C'est quoi? C'est des documents anciens, tout simplement? Des livres de cuisine qui font référence à ces recettes?
Alors, des livres de cuisine, des traditions. C'est vrai qu'on disait que la France est un pays gourmand et beaucoup de villes, de villages aiment à se réclamer d'une tradition gourmande. Mmh. Donc, ça attribue la création de tel ou tel dessert, tel ou tel bonbon aussi.
Il y a des origines un peu classe et puis il y a des desserts déjà qui ont des drôles de noms avec des explications un peu tordues. Par exemple, le pénon.
Ah oui, alors le pénon. Alors on raconte que c'est une nonne qui aurait émis un petit gaz et alors elle était un peu honteuse et du coup elle aurait fait tomber dans l'huile un petit peu de pâte à choux, parce que c'est de la pâte à choux, hein, et qui aurait fait se baigner ce pénon qui est absolument délicieux.
Pour une fois qu'un pet est utile.
Est utile, bon. Et même gourmand.
Il y a d'autres pets dans la pâtisserie française?
Oui, il y a le pet de putain.
Non.
Mais bien sûr que si, qui est attesté, qui est plus petit. Voilà. Mais enfin, on n'en parle pas souvent.
Non, c'est vrai que...
Sauf sur l'antenne d'RTL. Oui, oui. Oui.
Mais il ressemble à quoi, si j'ose dire, le pet de putain?
Oh, il est plus petit, mais enfin, il n'est pas...
C'est en pâte à choux aussi?
Oui, oui, c'est de la pâte à choux. Oui, oui, parce que la pâte à choux, quand elle... d'ailleurs, c'est le même principe quand on la fait cuire au four, hein, elle gonfle. Parce qu'elle contient de l'air, de l'eau qui gonfle et puis qui est retenue par la croûte qui est formée par l'albumine de l'œuf.
D'accord. Moi, j'adore la pâte à choux. C'est une invention de quelle époque, ça?
Alors, c'est une invention qui est... Alors, on pense qu'on la faisait déjà dans l'Antiquité, puis qu'elle aurait disparu, qu'elle serait réapparue, en fait, à la Renaissance, peut-être à travers un cuisinier de Catherine de Médicis. Mais enfin, on l'a vraiment codifiée seulement bien au XIXe siècle.
Et on y met de la crème assez rapidement dans cette pâte à choux?
Seulement à cette époque. En fait, on commence par faire le chou, et ce n'est que dans un deuxième temps que l'on met la crème. Notamment au milieu du 19e siècle, où on invente l'éclair, la religieuse, enfin le Saint-Honoré, tous ces desserts à base de choux.
L'éclair au chocolat ou à autre goût, on l'appelait comme ça dès le
début?
Oui,
alors on l'appelait aussi la duchesse. Là aussi, on ne connaît pas bien l'origine. On pense que c'est un pâtissier de Lyon, mais dont on a oublié le nom. Mmh. Et au départ, donc, c'est un gâteau qui a la forme d'un doigt, qui est rempli de crème pâtissière au chocolat, avec un glaçage au chocolat.
Et puis à son concurrent dans la pâtisserie, quand on va choisir une pâtisserie, on prend une religieuse ou un éclair au chocolat.
La religieuse,
oui, ou quand on est gourmand comme moi.
Qui est plus importante avec ces deux choux superposés, l'un qui figure le corps et l'autre la tête, et puis surtout la collerette et la coiffe qui sont en crème au beurre.
Marie-Hélène Bellac, je rappelle que vous publiez un repas gourmand à la française, histoire, recettes et littérature, c'est chez Omnibus. Alors il y a tout ce que vous nous dites là, et puis il y a des recettes, et puis il y a des citations qui sont merveilleuses. Parmi les histoires que vous racontez, il y a celle du baba au rhum. Oui. Est-ce qu'il a toujours été alcoolisé? Oui, comme son nom l'indique.
Oui, même s'il n'était pas au rhum. Il était plutôt au vin de Hongrie, tout simplement à cause de son origine, puisque c'est, je crois qu'on a déjà parlé, Stanislas Leszczynski, qui était roi de Hongrie, qui a dû se réfugier en Lorraine au début du XVIIIe siècle. Et on raconte qu'un jour, on lui aurait servi une brioche, vous savez ce qu'on appelle un kouglof, une brioche avec des raisins, qui était trop sèche. Il l'a renvoyée à la cuisine et le pâtissier a eu l'idée de l'arroser avec du vin de Hongrie, du Tokay, mélangé avec, avec un peu de sucre. Et du coup, Stanislas a trouvé ce gâteau tellement bon qu'il a décidé de le baptiser du nom du héros des Mille et Une Nuits, Ali Baba, donc le baba au rhum. Et alors il a été ensuite fait avec du vin de Malaga. Et puis c'est vrai qu'en France, au 19e siècle, et surtout, on a commencé à le faire au rhum, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on avait du rhum qui venait des Antilles.
Allez, faites tous tomber vos gâteaux, peut-être que vous allez inventer quelque chose. Ou pas, ou mangez-les, merci infiniment.
Le gâteau manquait, hein, c'est, voilà.
Merci.
Merci Marie-Hélène Bellac, je rappelle que vous publiez un repas gourmand à la française aux éditions Omnibus, et que l'on va vous rentrer très vite au micro de la curiosité. C'est la fin de cette curiosité du week-end. On se retrouve, heureusement, demain soir à 20h avec un beau programme encore.
Bah oui, parce qu'il faut quand même trouver de quoi alimenter les meilleurs moments du week-end prochain.
Bah bien sûr, sinon, oui, c'est le serpent
se
mord la queue.
Et il y a de très beaux thèmes de demain. Tiens, par exemple, l'histoire des courtisans. Alors, ça dure à toutes les époques. Hein. Il y en a encore aujourd'hui.
C'est très à la mode.
On va parler propreté avec un journaliste. Écoutez bien, il fait l'expérience, et c'est en cours, de ne pas se laver pendant plusieurs mois. Non, la douche, c'est pas pour lui.
Bonne fin de week-end à vous les curieux. Dans un instant, vous retrouvez Éric Jean-Jean et son 100% live.